Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord du cargo de Radio Caroline, avec aujourd'hui sur le pont quelques livres passionnants, saisissants ou percutants, récemment publiés, que je vais évoquer ici, grâce notamment à quelques extraits choisis, illustrés d'archives éclairantes et de sons divers. Des bouquins qui vont nous emmener dans des atmosphères, des époques, des contextes très différents, que vous auriez peut-être aimé recevoir lors des fêtes et que je vous suggère de vous offrir. Il va y avoir Taxi de nuit de Jack Clark, au cinéma central de Fabrice Gabriel, Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux de Judith Godrèche et pour commencer, L'Archiduc Forever de Johann Rahl. Pour entamer notre périple, je vous propose donc de pénétrer dans un mythique bar art déco de la capitale situé rue d'Ansart, au cœur de Bruxelles, l'Archiduc. Et ce, grâce à un appétissant livre paru chez 180 degrés édition, L'Archiduc Forever, dans lequel Johann Rahl, journaliste et fin spécialiste de la musique populaire, nous déroule l'épopée de ce lieu qui débute il y a un siècle, en 1925, pour connaître ensuite plusieurs renaissances, et ce n'est pas fini. Un ouvrage gratifié d'une fourmillante iconographie, affiches, documents, photos, cartons d'invitation, et dont moi je vais vous proposer quelques échos qui documentent la période de la relance de cet archiduc en 1985 grâce à Jean-Louis et Nathalie Hénard. Alors pour vous situer le personnage, Jean-Louis Hénard, il est né en 1953 du côté de Perruet, un jet de sous-boc de la frontière française. Et il sera l'un de ceux qui, en 1980, mettront la main à la poche pour financer la toute première production des disques du Crépuscule, un single sorti sous la bannière Factory Benelux, Shack Up de Earthen Radio. En 1981, Jean-Louis Hénard décide de s'évader quelques mois en Asie, après quoi, de retour en Belgique, et là, je vous cite Johann Rahl dans le livre, Jean-Louis gère le bar des Halles de Schaerbeek. Nous sommes en 1982-83. Puis, avec notamment Michel Duval et Benoît Henbert, des disques du Crépuscule, il ouvre Interférence, une brasserie cosmopolite qui s'installe sur un coin de la Grand Place de Bruxelles et ouvre le 22 décembre 1983 en musique et avec notamment Yann McCulloch de Echo and the Bunnymen et Everything But the Girl. Jean-Louis Hénard quittera l'Interférence en 1984 suite à des dissensions au sein de l'équipe et reprendra donc peu après l'Archiduc. En 1985, écrit Johann Rahl, le quartier d'Ansart n'a pas très bonne presse. Mais Jean-Louis ne craint pas d'affronter ce nouveau défi. Au contraire, il aime l'aventure autant que les gens et les rencontres. Quand on sort d'un endroit branché comme Interférence, explique-t-il, il faut que le suivant soit à la hauteur. Je connaissais l'Archiduc, mais très peu. C'est Marc Moulin qui m'y a emmené la première fois. Un endroit mythique, impressionnant. J'avais déjà été voir d'autres lieux, mais finalement, je me suis décidé à approcher Jacqueline, la veuve de Stan Brenders, qui tenait l'établissement depuis très longtemps. À l'époque, l'Archiduc était comme un bijou, un trésor caché dans Bruxelles, avec la vieille dame derrière ses rideaux. On peut dire que le club vivotait, se souvient encore Jean-Louis Hénard. Jacqueline s'approvisionnait en boissons au Sarma en face. Et sa vie, c'était de pouvoir accueillir ses clients, triés sur le volet, au compte-gouttes, en fonction de ses envies. Dès sa reprise, on y enregistrera de la musique à l'Archiduc. À commencer par The Train, un titre paru sur un mini-album du groupe avant-gardiste américain Tux de Moon, qui venait de signer avec la maison de disques bruxelloise Cram Disc. Ce Train y est enregistré à l'Archiduc en décembre 85 ou janvier 86, un mercredi après-midi. Toujours dans son livre Archiduc Forever, paru chez 180 degrés édition, Johann Rahl évoque également, bien sûr, les moments jazz dont le lieu fut de tout temps un si bel écrin, grâce notamment à son piano à queue logé entre les deux fameuses colonnes et sur lequel l'ancien patron, pianiste de jazz, Stan Brenders, a si longtemps joué. Le jazz continuera à y vivre à partir de 1985 et lors des décennies qui suivront, pas seulement avec de la musique d'ambiance, mais au travers de concerts donnés par des artistes belges et internationaux, avec le constant souci de mélanger les styles, les âges et les gens. Le samedi après-midi, il y aura Jazz After Shopping et le dimanche, les concerts Round About Five. Enfin, on le sait, Arnaud ne manquera jamais de passer tard le soir à l'Archiduc, car, comme il le confiera, le centre de la musique punk et rock bruxelloise, c'était le DNA, mais nous allions à l'Archiduc parce qu'il y avait de plus jolies madames et ils avaient de bons cocktails. Je vous rappelle une dernière fois les références. L'Archiduc Forever, Johann Rahl, 180 degrés, édition. Dans le précédent épisode de Radio Caroline, dont je vous suggère d'écouter le podcast si vous l'avez loupé, je vous emmenais en taxi entre fiction, celle de Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Pedro Almodovar ou Jafar Panahi, et réalité, au pluriel, celle de chauffeurs qui, la nuit, font de leur véhicule le réceptacle de confidences, de drames, de rêves et de transgressions. Et sur ce thème, je ne saurais trop vous recommander la lecture de Taxi de nuit de l'américain Jack Clark. Un récit écrit par un chauffeur qui avait sillonné les rues et avenues de Chicago du soir à l'aube pendant 30 ans, qu'il avait d'abord auto-édité en 1996 sous le titre Nobody's Angel, l'ange de personne, histoire de le vendre à ses passagers, avant qu'il ne soit repéré 10 ans plus tard par la maison d'édition Hard Case Crime, spécialisée dans les romans de gare bon marché. Un récit qui trouvera un nouveau public encore quand en février 2023, Quentin Tarantino le citera comme l'une de ses récentes lectures préférées. Et par bonheur, ce Taxi de nuit vient enfin de paraître en français aux éditions Sonatine. L'occasion de s'installer à bord du véhicule d'Eddie Miles, un enfant de Chicago qui a vu ses quartiers se métamorphoser, de se glisser entre ses échanges chaleureux ou tendus avec ses clients, de traverser des quartiers dangereux, repères de trafiquants de drogue, ou de filer sur les rues jadis populaires et désormais gentrifiées de la métropole. L'opportunité aussi de rencontrer un clochard ou une jeune prostituée qui supplie qu'on la laisse monter car il fait trop froid dehors, mais aussi les collègues d'Eddie qu'il croise à un feu rouge ou lors d'une pause. Sans oublier le Pancake House, ce diner typique où, entre les œufs au bacon et le café, il entend dire qu'un tueur s'en prend à des chauffeurs de taxi. Et quand de fait, l'un de ses confrères et amis est retrouvé mort, une balle dans la tête, Eddie Miles entame sa propre enquête, quels qu'en soient les risques. Des déambulations dans une ambiance très particulière, dont on sent les odeurs, où l'on perçoit les lumières artificielles qui peinent pourtant à fendre la nuit. Une chaleureuse chronique, au final, chronique du quotidien, composée d'histoires courtes, imbibées d'une certaine nostalgie. Taxi de nuit, Jack Clark aux éditions Sonatine. Au cinéma central est un livre signé Fabrice Gabriel, un écrivain et critique littéraire qui a grandi en Lorraine, à Sarreguemines, où il est né en 1965, à 2 kilomètres de la frontière allemande. Il y raconte à petites touches le passionné de cinéma qu'il fut dès l'enfance, grâce aux films vus tout au long de sa jeunesse, long métrage culte ou totalement dispensable, mais quoi qu'il en soit, marquant. Et ce faisant, il tisse avec beaucoup de chaleur, de délicatesse, d'élégance et une certaine mélancolie les fils de son adolescence dans cette province lointaine au cours des années 80, le tout entrelacé d'échos de sa vie familiale. Et quand à l'époque on habite dans une petite ville, pas facile de les voir ces films dont on entend parler et que commentent par exemple les cahiers du cinéma. Ce qu'il a d'ailleurs confirmé à une de nos collègues de la radio suisse romande.
L'accès simplement au film était un accès difficile aujourd'hui et c'est formidable par plein de côtés. Je suis le premier à en profiter. On a, et c'est ce que je dis aussi un peu dans le livre, on a accès à des cinémathèques virtuelles, presque illimitées dans leur proposition. Il faut comprendre que quand on avait comme moi 15 ans en 1980, il y avait des films qu'on ne pouvait pas voir. Surtout quand on habitait une petite ville de province et que, on ne pouvait pas être un cinéphile, j'ai presque envie de dire officiel, qui va à la cinémathèque, à Paris ou à Bruxelles ou que sais-je. dirais-je. Donc, il y avait une part de rêve, de désir, d'attente, de projection qui était... c'est assez banal ce que je dis là. Mais quand on l'a vécu, c'est vraiment quelque chose de, qui était extraordinairement marquant. La presse, les revues de cinéma avaient une importance plus considérable qu'aujourd'hui. Et c'était une façon d'essayer d'atteindre quelque chose. Enfin, il s'agissait de... On rêvait de voir des films qu'on ne pouvait pas toujours voir. Et puis, ce qui était écrit de ces films, par les critiques de cinéma, etc., était une façon d'en rêver davantage et de s'interroger sur une forme de mystère.
Alors, je vous en livre un extrait de ce livre au Cinéma Central. C'est à cette place que je m'installe, une place en corbeille au deuxième rang, derrière la petite rambarde de fer forgé, marquant la frontière avec le parquet, dans cette salle aujourd'hui disparue. La question, au seuil du cinéma et de la vie elle-même, qui alors pour moi se confondait, qu'allait-il se passer ? Pour annoncer ce quelque chose si plein d'incertitudes, et pour cela tellement excitant, il y avait des photos affichées dans le hall, après la caisse, avant la salle, le début du monde. Rien ne pourrait dire l'effet sur un enfant de ces images, leur matière de rêve sans rapport avec les captures d'écran d'aujourd'hui. C'était des tirages parfois gondolés de vraies photographies dites de plateau, punaisées dans un certain désordre, avec entre elles de grands vides, souvent, et des défauts d'équilibre dans la composition qu'elles finissaient par former tout de même d'une poésie totale. Les pièces rares d'un puzzle, à peine quelques indices sur le film. On entrait sans crainte dans le mystère de la vie qui viendrait, l'avenir encore innommé, l'envers de la caverne. Nous avions, il est vrai, de grandes espérances. Il y avait en réalité trois salles de cinéma. Le Central, puis l'Éden au centre-ville et, plus proche de ma maison, une petite salle paroissiale sans nom avec des sièges en bois où certains soirs les spectateurs fumaient. Je me souviens qu'on l'appelait simplement le cinéma, sans qu'il fût réellement possible d'y déchiffrer une logique ou même quelques vagues cohérences. La programmation consistait en films musicaux, comédies françaises, reprises parfois de films anciens, classiques ou populaires. Le soir de la projection de Rinaldo and Clara, il y avait beaucoup de monde et tellement de fumée dans la salle que l'on parvenait à peine à distinguer l'écran où Harry Dean Stanton échangeait son cheval contre la femme en blanc, le rôle qu'interprétait John Baez, alors compagne de Bob Dylan.
Well, pleasure having you here. Pleasure having you here, and God bless you. Do you see any holes on these fingers? You see how close they stay? Be careful, baby. One nickel come in my hands, then I'll give you a quarter or half a dollar.
Yeah.
Mm-hmm. So, whatever you do, God bless you.
Bref extrait de ce Rinaldo and Clara, vu donc par Fabrice Gabriel dans le cinéma paroissial. Patchwork d'extraits de concerts, de séquences de documentaires, d'interviews et de bribes de fiction réalisées en 78 par Bob Dylan.
Radio Caroline.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Quittons la petite salle paroissiale évoquée à l'instant pour retourner au Central, cette petite salle de Sarreguemines aujourd'hui disparue, où le journaliste et romancier Fabrice Gabriel part sur les traces de son enfance et adolescence cinéphile dans les années 70 et 80, au creux de son livre « Au cinéma central », prix Médicis Essai 2025, je le signale, est paru au Mercure de France. Extrait. Les dimanches étaient longs en Lorraine, dont je me sauvais en allant seul l'après-midi au cinéma. Mais peut-être faut-il fixer les choses et donner ici quelques dates, l'époque n'étant pas indifférente après tout dans cette petite histoire. Mon enfance se passa donc pendant les années 70 dans une ville modeste de la province française qui, sans être bourgeoise, n'était pas pauvre, mais le deviendrait presque mécaniquement à mesure que disparaîtraient ces belles salles de cinéma. Aujourd'hui, c'est une espèce de ville fantôme, comme dans les Lucky Luke que je lisais autrefois avec passion, tandis que s'est élargie la zone sans grâce de ses marges, hangars, dépôts, centres commerciaux. J'aimais les westerns, ceux en particulier, je ne sais pas pourquoi, où il était question d'un fort à défendre, à bâtir, à sauver de l'attaque des Indiens. Mais ce n'est pas au Central que je les avais d'abord découverts, plutôt à la maison, à la télévision, le mardi soir, avec ma mère collée à elle comme un petit chien sur le canapé rouge sombre du salon, devant le vieux poste bombé et sans télécommande de marque Telefunken. Et c'est un souvenir d'enfance parfait, celui de ces voix doublées en français des films américains des années 40 ou 50 que diffusait à profusion la chaîne Télé Luxembourg. Les rebelles de Fort Thorn de Robert Wise, Le massacre de Feu Rapage de John Ford ou Fort Invincible de Gordon Douglas.
Ici Télé-Luxembourg, Canal 7 et Canal 21, émetteurs de Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Ah, c'est ce que je pensais. C'est Tuscos, le chef de tous les Apaches, et c'est lui le type qui a déclenché la bagarre. Vous pouvez le lâcher, caporal.
Dans l'armée, on épargne les prisonniers.
Moi, je suis civil.
Nous le ramènerons à Fort Winston avec nous.
Beaucoup de films que je vis dans l'enfance, puis la jeune adolescence, écrit encore Fabrice Gabriel, ne semblaient parler que d'amour. Et c'était comme un monde exotique, abstrait, dont il s'agissait avant la vie de deviner les repères pour s'en faire peut-être des modèles, un patron pour le futur. C'était aussi le risque du cinéma, n'aimer que des fantômes et ne jamais vaincre la peur de la vie, se chercher seulement des alliés pour lutter contre cette peur-là. Car sur le grand écran du central, il y eut aussi, bien sûr, pour Fabrice Gabriel, des visages féminins à jamais imprimés dans la mémoire de l'auteur. Nastassia Kinski avait surgi dans ma vie comme une apparition à bord d'un train pour Bonn au début de Faux Mouvement, Falsche Bewegung, film de Wim Wenders. Elle y interprète le personnage de Mignon. Elle a mon âge quand je découvre le film. C'est une jeune fille sauvage, mutique, une saltimbanque en wagon de seconde classe. Son regard ne scie pas, tandis que l'accompagne comme un chaperon bizarre, un ancien nazi qui saigne du nez. Disons que j'en étais tombé amoureux, et ce fut tout. Et de fait, dans ce Faux Mouvement sorti en 1975, Nastassia Kinski est mutique, ce qui veut dire qu'on n'entend pas sa voix. Alors comme en plus on est à la radio, il faut l'imaginer, cette adolescente de 14 ans, dans ce compartiment de train, sa frange brune tombant presque sur les yeux, son pull en laine grosse maille, ras du cou aux larges lignes bleues, roses, jaunes et brunes, sous sa salopette de jean un peu bouffante, assise aux côtés d'un ancien athlète olympique, qu'elle accompagne sans qu'on sache vraiment quelle relation ils entretiennent face au jeune Willem qui rejoint lui, Bonn, avec l'envie de devenir écrivain.
Fahren Sie hin.
Aber das ist nur eine Karte. Begleiter können Sie selbstverständlich im Zug benachrichtigen.
Aber für das Mädchen zahle ich hoffentlich nur die Hälfte.
Au fait, Wim Wenders semble avoir travaillé respectueusement, de façon très attentionnée, avec la jeune Nastassia Kinski, 14 ans donc. Nastassia Kinski qu'il retrouvera 10 ans plus tard pour Paris, Texas. Toutes les jeunes comédiennes, on le sait, ne peuvent pas en dire autant. À commencer en France par Isilde Lebesco et Judith Godrèche, qui ont toutes deux porté plainte pour viol sur mineur contre le réalisateur Benoît Jacquot, mais aussi concernant Judith Godrèche contre Jacques Doyon. Isilde Lebesco avait publié il y a 2 ans un livre sans phare et touchant, titré « Dire vrai ». Judith Godrèche vient de publier le sien. Dans son livre « Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux » paru chez Gallimard, la comédienne et réalisatrice Judith Godrèche évoque sa relation sous emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot alors qu'elle était adolescente et qu'il avait 25 ans de plus qu'elle et contre qui elle a porté plainte pour viol sur mineur. Jacquot, présumé innocent, étant également accusé de viol par les actrices Julia Roy et Isilde Lebesco. Ce livre n'est pas un récit suivi, mais un puzzle autobiographique implacable, grâce auquel Judith se réapproprie son histoire avec, en contrepoint, dessins, travaux scolaires, photos, textes personnels, extraits d'articles et lettres de proches. Les hommes de mon enfance aimaient voler mes mots. Aujourd'hui, je donne les ordres. Mes mots m'appartiennent de nouveau. Eux et moi, nous partons en guerre, amorce-t-elle dans ce livre. En réalité, Judith Godrèche avait déjà tenté d'alerter en publiant il y a plus de 30 ans, alors qu'elle avait 23 ans, un roman titré « Point de côté » dans lequel son héroïne quitte son compagnon, beaucoup plus âgé qu'elle, pour s'émanciper, connaître enfin la liberté. Un ouvrage à clé, alors incompris et notamment par la pourtant résolument féministe Laura Adler, qu'il avait reçue à l'époque en 1995 sur le plateau du Cercle de minuit, émission tardive de France 2.
Honneur aux femmes ce soir, honneur à celles qui passent de l'autre côté pour la première fois, honneur à Judith Godrèche qu'on connaît d'une autre manière. Vous avez décidé de prendre la plume et vous publiez votre premier roman. Il s'intitule « Point de côté ». Et c'est l'histoire d'une jeune fille, elle a 20-21 ans. Et elle décide de quitter l'homme qu'elle aime. Elle croit qu'elle l'aime d'ailleurs, c'est pas la raison de la rupture, puisqu'elle dit « je te quitte même si je t'aime, je te quitte pour savoir quelle est la vraie vie, pour essayer d'être. »
D'exister ailleurs. Oui, c'est une fille qui a vécu très jeune avec un homme et qui est restée assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence, qui a été comme ça projetée très vite dans un monde où l'amour était devenu sa seule raison d'être et qui décide de découvrir la vie, le monde extérieur et surtout d'apprendre à découvrir la liberté, savoir ce que c'est que la liberté, qui aimerait savoir ce que c'est que la liberté.
Mais cette liberté, elle va la trouver non pas grâce à un autre homme, mais grâce à une petite fille.
En fait, c'est une fille qui, avant d'être avec cet homme, était kleptomane, volait, comme pour remplir un vide, un manque d'amour. Et pendant le moment où elle était avec cet homme, elle a cessé de voler. Elle le quitte, elle se remet à voler, mais elle vole un enfant. C'est pas vraiment un vol, parce qu'en fait, c'est plutôt
une complicité.
Oui, c'est un coup de foudre. Elle tombe par hasard sur une petite fille. Et ça se fait naturellement, que c'est même pas. Elles apprennent même pas vraiment à se connaître. Je crois qu'elles tombent.
Elles partent ensemble dans la vie.
Elles partent ensemble, ouais.
Et elles s'essoufflent vite à marcher dans les rues. C'est pour ça qu'elles ont un point de côté.
En fait, non. Pour moi, point de côté, c'était justement avant ce renouveau, avant ce nouveau départ, c'est-à-dire de quitter cet homme. Elle a vécu comme ça des moments très fermés. On est dans un univers très clos, fermé. Sur eux-mêmes, avec cet homme, elle a un point de côté, elle a plus de souffle, elle a besoin de s'arrêter pour pouvoir repartir. Et donc, ça commence par le point de côté, et ce qui suit, c'est le nouveau départ.
Elle a une très grande liberté dans ses amitiés, on a l'impression qu'elle n'est elle-même qu'avec ses amis IE.
C'est-à-dire qu'elle a l'âge, pas l'âge de raison, mais l'âge auquel on est censé être une femme. 21 ans maintenant, il n'est plus question de jouer les enfants, de jouer les petites filles. Il faut être une femme. Physiquement, c'est une femme. Et en fait, elle n'a pas appris à être une femme. C'est-à-dire qu'elle a été une femme très jeune et très assez violemment, comme ça. Et donc, c'est vrai qu'avec les hommes, elle a ce rapport ambigu, à la fois elle cherche en eux un soutien et une protection.
Et à ce moment, Laure Adler enchaîne sur une autre idée sans prendre conscience que le cœur du livre, son urgence, est dans cette relation asymétrique, déséquilibrée, anormale entre cet homme et cette jeune adolescente, relation relatée dans le livre, mais qui fut en vrai celle du couple Jaco-Godrèche, comme le sait la journaliste, de même que tout le monde dans le milieu. Ce premier livre aurait dû l'alerter, mais il n'en sera rien. Au contraire, en fin d'interview, elle propose de revoir un extrait de Dixit, ce beau film « La désenchantée » de Benoît Jacquot avec Judith Godrèche, film qui n'est pourtant pas d'actualité, il est sorti 5 ans plus tôt. Et le ratage de cette interview, Judith Godrèche l'évoque dans ce livre, comme elle avait eu l'occasion, sur le plateau d'une émission de France 5 en 2024, de le rappeler à Laure Adler, également présente dans cette émission.
Vous acceptez qu'on voit un petit extrait du film si beau, La Désenchantée ?
Oui, je
veux bien. On va le regarder tout de suite, regardez.
Je crois que c'est ça que vous n'avez
pas digéré. Ça clôt l'interview, en fait.
Enfin, là, c'est pas l'interview.
Non,
hein.
Non,
très resserré.
Non, bien sûr. Mais c'est encore pire, d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Parce qu'en fait, cette interview assez longue, enfin, en tout cas, qui était un vrai moment d'échange, se clôt. Le dernier mot de cette interview, c'est... Et vous acceptez qu'on... Film qui n'a rien à voir, si ce n'est
film
dans
son... Benoît Jacquot.
Oui, maman qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, qui est justement... je m'échappe, je m'enfuis, j'écris et on me dit tu retournes dans la boîte. C'est là que tu dois vivre, dans cette cour. Là, c'est retourne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement patriarcal dans cette phrase-là. C'est à toi, tu es jolie, tu as écrit un livre, bon, on en parle un peu, c'est bien, mais maintenant on va montrer un vrai moment de cinéma, quelque chose de magnifique, mot qui n'a pas été employé pour parler de mon roman. Donc il faut aussi voir aussi à quel endroit les mots ont une importance quand il s'agit du travail d'un homme qu'on respecte, qu'on admire, mais quand on parle du roman d'une jeune fille de 21 ans, on ne lui dit pas « votre roman magnifique ». Donc il y a quand même tout un système dont vous faisiez partie pour moi, en tout cas à cette époque-là et à cet endroit-là, qui ne m'a pas aidé du tout, du tout, du tout.
Quoi. Est-ce que vous, comment,
alors d'abord, vous je voudrais m'excuser si jamais je vous ai offensé. Et manifestement, ce jour-là, je vous ai offensé. Donc, je voudrais vraiment vous présenter mes excuses si je vous ai blessé. Si je vous ai invité, c'est parce que j'avais beaucoup aimé votre roman. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais je l'ai lu comme une sorte d'adieu à l'enfance et comme une sorte de prise en charge de votre propre individualité pour pouvoir mener votre vie comme vous l'entendiez.
Enfin, dans l'interview, je vous dis que je n'ai pas eu d'enfance, hein, justement. C'est
oui, mais justement,
de dire adieu à quelque chose qu'on
par,
a pas eu.
Par le roman que vous repreniez en main votre enfant. Je ne l'ai pas
non,
lu.
Non, mais de toute façon, moi, je ne vous en veux pas plus que ça, honnêtement. Il se trouve que c'est intéressant.
Un peu quand même.
Non, et c'est intéressant, mais je pense qu'ensuite, vous avez reçu Benoît Jacquot un milliard de fois dans toutes sortes d'émissions et que vous l'avez.
J'ai reçu Benoît Jacquot.
Voilà.
Oui,
donc, de toute façon, je pense que vous. Oui. Voilà, exactement. On est en train de parler d'un système dont vous faisiez partie, mais on n'est pas là pour se.
Alors, bien sûr, ceci ne relate qu'un épisode parmi bien d'autres de l'enfance et l'adolescence volée, violée, que raconte dans son livre Judith Godrej, mais il illustre l'aveuglement général de la part du milieu du cinéma et de la presse, non pas sur les viols qu'ils ignoraient, mais sur ses comportements, ses dérives dont ils pouvaient être les témoins. Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux, c'est signé Judith Godrej et c'est paru chez Gallimard. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.